With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Ça, ouvre-moi ou le chasseur me tuera. Lapin, on triga. Me serrer la main, me serrer la main.
Lui, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors bienvenue à vous dans Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Pour Nathalie, la maternité est arrivée comme une évidence, sans trop se poser de questions. Là où elle a commencé à s'en poser, c'est lorsqu'elle a découvert un cycle très irrégulier après l'arrêt de sa pilule. La présence de kystes nécessite alors une aide pour stimuler ses ovaires, et finalement Nathalie est rapidement enceinte. Lorsqu'elle fait ses premiers pas dans la maternité, elle comprend rapidement qu'elle veut changer de rythme de vie. Ses souvenirs d'enfance en Afrique remontent délicatement à la surface, et elle se rend compte que son quotidien effréné en Belgique ne convient pas à sa nouvelle vie de maman. Alors, toute la petite famille part s'installer à Kigali, au Rwanda. Sa deuxième grossesse arrive sans encombre, mais en parallèle, le père de Nathalie est très malade et succombera à son cancer. Difficile alors de jongler entre la vie qu'elle porte et la mort qu'elle accompagne. C'est donc en Belgique qu'elle accouchera une seconde fois et l'arrivée de sa deuxième fille apportera toute la douceur nécessaire après un tel tourbillon émotionnel. À son retour au Rwanda, Nathalie découvre l'aide précieuse des femmes de son entourage, ce fameux village que toutes les jeunes mamans devraient avoir autour d'elles pour se reposer de l'accouchement et vivre un postpartum en toute sérénité. Dans cet épisode, Nathalie nous raconte pourquoi elle a décidé de partir vivre au Rwanda, les difficultés qu'elle a dû surmonter pendant sa deuxième grossesse et sa vie d'expatriée en Afrique, le meilleur choix pour voir grandir ses filles. Bonne écoute. Bonjour Nathalie.
Bonjour Shane.
Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans le tourbillon.
Bah écoute, avec grand plaisir. Je suis super contente que tu m'aies proposé de venir discuter maternité avec toi.
Alors toi, tu es la maman de deux filles. Quel âge elles ont ?
Alors, Adèle a 8 ans et Pénélope a 4 ans, bientôt 5.
On entend ton petit accent venu tout droit de Belgique.
Exactement, du plat pays.
Ouais. Comment est arrivé, toi, le sujet de la maternité dans ta vie ? Est-ce que déjà c'est quelque chose à laquelle tu pensais depuis toute petite ? Est-ce que tu as su très vite que tu voudrais devenir maman ?
Oui, en fait, je pense même que je me suis jamais vraiment posé la question de savoir si je voulais ou pas un enfant. C'était assez évident pour moi. Il y a toujours eu beaucoup d'enfants autour de moi dans la famille. En plus, j'ai des demi-frères et demi-sœurs un peu plus âgés, donc j'ai eu des nièces et des neveux quand j'étais ado. Et du coup, j'en suis beaucoup occupée. Et c'est vrai que voilà, je me suis jamais vraiment posé la question. J'ai toujours su que je voulais au moins un enfant, idéalement deux. Et ça s'est fait tout naturellement aussi avec mon mari. On s'est rencontrés assez jeunes, donc ça n'a pas été un sujet de conversation tout de suite parce que j'avais 19 ans quand je l'ai rencontré. Qu'à ce moment-là, je n'y pensais pas concrètement. Cela dit, voilà, très vite, j'ai quand même vérifié qu'il lui aussi il était plutôt partant pour devenir papa, ce qui était le cas. Et donc voilà, au fur et à mesure, ben on a fini l'université, on s'est mis en ménage, on a acheté un appart, on s'est marié. Et puis après le mariage, ça faisait tout à fait sens pour nous de se lancer dans l'aventure de la parentalité en fait. Et donc voilà, mais c'est vrai que ça a toujours été, oui, une évidence. Je ne me suis jamais posé de questions par rapport au fait de vouloir ou pas un enfant. C'était certain que j'en voulais.
Et alors, à quel âge, toi, t'as commencé justement à tenter de tomber enceinte, puisque tu me disais que ça n'avait pas été si simple pour ta première grossesse?
Oui, en fait, donc on s'est mariés en 2011, donc j'avais 27 ans. Et après le mariage, on a directement décidé de commencer à faire les essais. Et en fait, moi, quand j'ai arrêté ma contraception, j'ai réalisé qu'en fait, j'avais des cycles qui n'étaient pas du tout réguliers. Mais quand je dis pas réguliers, c'est genre des délais de parfois 40 jours entre mes règles, parfois plus. Et en fait, à ce moment-là, du coup, on a fait quand même quelques examens avec la gynécologue et il se trouve que j'ai un dérèglement hormonal qui provoque des petits kystes sur les ovaires, ce qu'on appelle communément les ovaires polykystiques, je pense, micropolykystiques. Donc, au lieu de d'ovuler normalement, l'ovule reste un peu coincé sur l'ovaire et donc je ne suis pas réglée et donc je peux pas tomber enceinte puisque l'ovule ne va pas où elle devrait aller pour être fécondée. Et du coup, quand on m'a annoncé ça, j'étais un peu désarmée parce que forcément, on se retrouve pendant tout le temps où on est jeune, ce dont on a peur, c'est de tomber enceinte quand c'est pas le bon moment. Je pense que toutes les femmes ont cette inquiétude-là, c'est-à-dire que à partir du moment où on est pubère ou à partir du moment où on commence à avoir une vie intime et une vie sexuelle, notre grosse inquiétude, c'est de ne pas tomber enceinte par accident, parce que ça poserait trop de questions, parce que c'est pas le moment. Et là, tout d'un coup, quand on a envie de tomber enceinte et qu'on nous dit qu'en fait ça va être un peu plus compliqué parce que pour finir on n'ovule pas si bien, c'est un peu perturbant, décevant, parce qu'on s'imagine toujours que voilà, ça va être une question de 1, 2, 3 cycles et puis bim bam boum, on sera enceinte. Et là, en fait, ce que ma gynéco me disait, c'est voilà, vous allez avoir besoin d'un petit coup de boost parce que si vous pouvez continuer à essayer comme ça très longtemps, mais le problème des ovaires micropolykystiques, c'est que ça peut s'aggraver. Et donc, j'ai dû en fait reprendre la pilule un petit moment pour faire réduire les kystes. Et puis ensuite, j'ai dû prendre un traitement qui s'appelle le Clomid, qui est un stimulateur d'ovulation en fait. Et donc, du coup, ça rend le truc un peu moins romantique, un peu moins sexy forcément. Parce qu'on est obligé là de vraiment faire attention à ces cycles, à faire des prises de sang pour savoir si c'est le moment de prendre le traitement ou pas. Donc c'était un peu moins magique que ce qu'on avait imaginé. Mais cela dit, ça a porté ses fruits puisque après deux ou trois sessions de stimulation, je suis tombée enceinte d'Adèle en fait. Donc dans notre malchance, on a quand même été chanceux parce que ça a été assez vite au final comparé à d'autres.
C'était au bout de combien de temps qu'on t'a dit qu'il fallait de l'aide pour que tu puisses tomber enceinte ?
En fait, on me l'a dit assez vite. Je pense que, en fait, quand j'ai réalisé que mes règles ne revenaient pas forcément après la pilule, j'ai été voir ma gynéco qui était une dame d'un certain âge et je crois qu'avec mon profil, parce que souvent aussi cette histoire d'ovaires micropolykystiques, c'était des nanas qui ont parfois des petits soucis de poids et de choses comme ça, et je rentrais dans beaucoup des symptômes. Et donc, elle m'a très vite fait faire les examens, je crois, après deux mois où mes règles avaient été complètement... deux cycles où mes règles avaient été complètement n'importe quoi. Je crois qu'une fois, c'était 45 jours, l'autre fois, c'était 38 ou 40. Enfin, c'était vraiment bizarre. Et du coup, elle a fait une écho et elle a directement vu en fait que mes ovaires avaient des petits kystes et qu'il fallait donc d'abord on rétablisse ça. Et pour rétablir ça, il faut reprendre la pilule. Alors quand tu veux faire un bébé, ça te semble toujours un peu bizarre, mais c'était nécessaire. Et de là, on pouvait alors enchaîner sur le cycle qui allait être sans pilule pour le stimuler en fait.
D'accord. Et donc après 2-3 cycles, tu tombes enceinte.
Oui.
Donc super nouvelle.
Oui, clairement. Écoute, avec beaucoup d'émotions, le fait d'avoir dû passer par ça, je m'étais préparée à ce que du coup ce soit très très long, et donc c'est ça que je dis, dans notre malheur, on a eu cette chance-là, qu'au final ça fonctionne assez vite, et du coup, c'est à la fois beaucoup de joie, et à la fois en fait j'étais aussi un peu inquiète, parce que bon, on n'arrête pas de nous répéter que les 3 premiers mois de grossesse, il faut pas trop le dire, trop en parler, trop se réjouir, qu'il y a des risques de fausses couches. En fait, tout d'un coup, je découvrais un monde auquel je ne connaissais rien au final, parce que en théorie, on se dit voilà, on a son compagnon ou son partenaire avec qui on veut un enfant, on a des rapports sexuels au bon moment et hop, on tombe enceinte et puis 9 mois plus tard, il y a le bébé, et c'est merveilleux. Mmh. Mais en fait, le truc, c'est que franchement, c'était beaucoup moins romantique que ça. Et donc, j'étais un peu anxieuse parce que avec cette histoire de fausses couches les 3 premiers mois où on nous donne des chiffres qui sont assez impressionnants, en fait, je me disais, mince, si ça fonctionne pas, je devrais refaire ces stimulations, je devrais reprendre ce traitement qui avait quand même pas mal d'effets secondaires, qui bouffait de chaleur, nausées. Enfin, c'est pas un traitement qui est très, très chouette. Et du coup, c'était juste pas possible. qu'on se réjouisse à 100%. Je sais pas comment expliquer, mais c'est vrai que du coup, c'était un peu genre, j'étais réjouie et en même temps, je m'inquiétais que ça ne se passe pas bien, en fait.
Une petite épée de Damoclès.
Oui, c'est ça. Voilà. Et puis même, enfin, tout ce qui est même au niveau administratif, on nous dit, voilà, dites-le à votre employeur, mais en même temps, on ne le dit peut-être pas avant les 3 mois. Enfin, je trouvais ça, ouais, un peu stressant. Et alors, comme au début, on a pas beaucoup de signes. Enfin bon, j'avais des nausées, mais ça suffisait pas à me rassurer. Mais c'est vrai que voilà, j'ai trouvé que la réalité de la grossesse était vraiment moins sympa que ce que j'avais imaginé. Parce que oui, on est tout le temps un peu stressé en fait. Cet enfant, une fois qu'on nous dit qu'il est là, et c'est tout au début. Moi, je l'ai su puisque avec tout le suivi, j'avais des prises de sang régulières, donc j'ai su directement que j'étais enceinte. Il n'y a pas eu de test pipi, c'était par prise de sang. Et du coup, voilà, il est déjà là et on a déjà envie de se projeter. Et en même temps, la réalité nous rappelle qu'il faut quand même faire attention, les statistiques, tout ça. Enfin, je n'ai pas trouvé ça très réjouissant au début. J'étais plus stressée qu'autre chose. Et donc, voilà. Mais on avait quand même déjà beaucoup quand même d'attente et de joie parce que ça reste quelque chose quand même de merveilleux quand on nous dit que voilà, il y a une petite vie qui est en train de grandir en nous. C'est quand même quelque chose... d'incroyable.
Et alors, comment se sont passés les 9 mois de grossesse, hormis le stress? Est-ce que ça s'est atténué un petit peu? Et physiquement, comment tu l'as vécu, la grossesse?
Alors, donc moi, j'ai vraiment été très, très malade. Donc, au début, c'était des petites nausées, comme on nous le vend dans les livres. Et puis, très vite, ça s'est transformé en vomissement important. C'est-à-dire que je vomissais matin, midi, soir, et pas seulement les 3 premiers mois. Ça dure chez moi jusque plus ou moins... la fin du 2e trimestre, donc c'est quand même 6 mois à être malade. Donc ça veut dire qu'en fait, moi, pendant mes grossesses, je perds beaucoup de poids, parce qu'évidemment, bah, quand tu vomis comme ça, tu gardes pas grand-chose, tu n'as pas très faim. Et du coup, j'ai été mis en arrêt, en fait, à un moment donné, parce que bah, c'est épuisant, en fait, tu es tout le temps en train de vomir, tu ne manges pas beaucoup, et donc aller au travail, c'était compliqué. Donc ma gynécologue m'avait mis en arrêt parce qu'en fait, voilà, elle me disait le meilleur truc, c'est vraiment de se reposer et de pouvoir manger quand on veut, quand on peut, des petites quantités, des choses comme ça. Avec le boulot, la routine métro, boulot, dodo, c'est un peu plus compliqué.
Tu faisais quoi?
À ce moment-là, je travaillais comme dans une grande société d'assurance en Belgique et j'étais chargée de clientèle. Donc voilà, mais on change d'agence régulièrement. Et du coup, voilà, c'était quand même un boulot qui demandait de bouger beaucoup, de voir beaucoup de gens aussi. Et donc, c'était pas très compatible avec mon état de grossesse qui était vraiment, maladif. Enfin, j'aime pas dire ça parce que il y a des gens qui, c'est pour qui c'est vraiment plus compliqué, mais n'empêche vraiment, c'était pas des nausées, c'est, genre vraiment vomir matin, midi et soir, et il n'y a pas beaucoup de médicaments qui fonctionnent. Ceux qui fonctionnent, vous les prendre en toute petite dose, donc je les prenais vraiment quand j'étais à bout, genre j'avais tenu toute la semaine, et le vendredi j'en pouvais plus de vomir, alors je prenais le petit comprimé d'anti-vomitif auquel j'avais droit, mais je me sentais mal de le prendre enceinte, parce qu'à la base on n'est pas censé prendre trop de médicaments enceinte, donc du coup ouais, ça a été une grossesse un peu stressante quand même, voilà. Et en fait, le dernier trimestre, là, du coup, c'était très chouette parce qu'à ce moment-là, j'avais plus de nausées. Le dernier trimestre, on sait aussi que, voilà, la fin approche, qu'on va enfin rencontrer notre enfant. Et du coup, voilà, je dirais que le dernier trimestre a vraiment été très très chouette. Et heureusement, parce que du coup, c'est ce qui permet aussi de, voilà, de tirer plutôt un bilan positif d'une grossesse qui a été un peu avec beaucoup de bas et quelques hauts.
Est-ce que tu sais s'il y a une différence dans le suivi de la grossesse en Belgique par rapport à la France, ou c'est pareil?
Alors, en Belgique, on a quand même beaucoup de tests médicaux. Enfin, je ne sais pas si vous avez la même chose que nous. Donc, on avait beaucoup... Je devais faire de tests pour la toxoplasmose régulièrement parce que je n'étais pas immunisée. Donc c'est-à-dire j'avais une prise de sang tous les mois pour vérifier ça. Ma gynécologue, je la voyais aussi une fois par mois. En théorie, on nous rembourse 3 échographies pendant la grossesse, mais la part des gynécos en font quand même un petit peu plus pour d'abord pour rassurer les mamans et aussi, je pense, pour eux aussi être sûr que tout se passe bien. Après ça, oui, je pense que c'est tout. Je pense que la durée du congé maternité est assez similaire. Enfin, nous, c'est 12 semaines post-natal de congé maternité. Et ce qu'il y a avant, c'est considéré comme un congé maladie. C'est pas considéré comme un congé maternité. Donc, moi, les semaines où je n'allais pas au travail, c'était des congés maladie, en fait, et pas des congés maternité. Mais à part ça, sinon, je pense que c'est assez similaire. J'ai l'impression qu'en France, c'est plus les sages-femmes qui vous suivent, non? Enfin, en Belgique, il y a, les sages-femmes suivent beaucoup pour le post-natal, pour la rééducation et pour les visites à domicile. Mais la grossesse est plutôt suivie en hôpital avec des gynécologues, en fait. Et l'accouchement aussi, d'ailleurs. Et il y a toujours un gynéco.
D'accord. Et alors, comment s'est passé, toi, ton accouchement? T'as accouché dans un hôpital public?
Oui, dans une clinique pas très loin de chez nous, où c'était la clinique où ma gynécologue travaillait. Hein. J'ai pas été chercher plus loin que ça. J'avais pas spécialement de projet de naissance ou de trucs comme ça. J'étais voilà, juste ma gynécologue travaille là. Je vais accoucher là, c'est un hôpital pas très loin de la maison. Elle est arrivée un peu après terme, donc ça a été un déclenchement. Donc on m'a laissé une semaine par rapport à la date prévue d'accouchement, puis comme elle venait toujours pas, du coup je suis rentrée à la clinique pour un déclenchement. Je crois qu'à refaire j'aurais peut-être dit non, parce que le déclenchement ça rend quand même assez violent l'accouchement, parce qu'on est directement dans des contractions très très fortes au lieu d'avoir un travail progressif. Mais bon, cela dit, ça, de nouveau, ça a été rapide. Je pense vraiment que c'est une question de un jour ou deux, et que même ce déclenchement c'était peut-être le jour où elle devait venir, parce que en gros, je suis rentrée le 31 juillet à la clinique. Ils m'ont donné déjà une petite perf à ce moment-là et mis un tampon d'introduit pour le col, parce que mon col était en béton armé, donc c'était pour le ramollir et que le bébé puisse aussi commencer son travail de son côté. À 8h du matin, mon mari m'a rejoint, on a été en salle c'était pas encore la salle d'accouchement, mais pour finir j'ai quand même accouché dedans, mais c'est une salle de naissance, je sais pas comment appeler ça, on peut y faire les bains, les douches, les exercices, les ballons, tout ce qu'on veut. Au début, donc ça a été très lent, donc c'était là genre bon bah on y va doucement, voilà, faut laisser le temps au corps. Et puis en un coup ça s'est emballé, et en fait on a appelé l'infirmière en vitesse, en disant il faut que la gynéco arrive parce que le bébé est là. Elle était un peu surprise en mode mais non madame. Et puis quand elle a vérifié, elle était là, ah ben oui en fait vous avez raison. Je dis ah oui, enfin j'ai un peu senti quand même hein, qu'elle était là. Et voilà, et donc à 14h elle était là, donc j'étais rentrée à 8h en salle, et à 14h30 Adèle naissait.
Comment s'est passée cette rencontre avec ta première fille?
Oh là là. Bon, je suis toujours très émue quand j'y repense. Bah écoute, c'est un truc c'est vraiment incroyable en fait. Ce qui est incroyable aussi, c'est l'accouchement, c'est à la fois un moment très violent, je trouve, physiquement, et je pense qu'on le réalise pas assez tant qu'on n'a pas accouché, mais ça demande un effort physique, ça demande un certain degré aussi d'abandon psychologique, parce que je pense qu'à un moment donné, il faut juste accepter ce qui est en train de se passer, et malgré la péridurale, moi, elle marchait qu'à moitié. J'avais une jambe où je sentais tout, l'autre où je sentais rien. Donc, je sentais mon accouchement à moitié, en fait. Donc, c'est à la fois très, très violent, et puis c'est d'une douceur absolument inouïe au moment où on nous dit le bébé là, vous pouvez le prendre, et que là, on découvre cette toute petite personne. Enfin, elle était, j'avais jamais fait de rêve, je m'étais jamais imaginé à quoi elle ressemblait, je trouvais pas que les échographies c'était très clair, moi. Il y a des mamans qui ont l'impression de voir le menton du papa, le nez de la grand-mère. Moi, à chaque écho, je voyais juste un bébé, je me disais, je sais pas du tout à qui elle ressemble, elle. Mais tout d'un coup, quand je l'ai vue, c'était incroyable, parce qu'en fait, c'était comme si je la reconnaissais, c'est-à-dire que j'aurais pas imaginé autrement. Elle avait plein de cheveux noirs, elle avait des grands yeux noirs, elle était toute dodue avec ses petites joues, elle était absolument parfaite et absolument comme, je sais pas comment dire, mais oui, tout d'un coup j'étais là genre ben oui, clairement elle pouvait pas être autrement que comme ça. Et je me souviens que mon mari était extrêmement ému. Je pense que l'accouchement l'a grandement impressionné. Bon, il avait pour directive de ne pas quitter mon épaule et de dire non à tout, parce que j'avais des copines à qui on avait dit au mari venez voir, et puis le mari était allé voir. ça, c'était pas très chouette ce qu'ils avaient vu. Et donc moi je lui avais dit, tu restes bien à mon épaule et tu dis non à tout. Il a dit tellement non à tout que quand on lui a dit vous voulez couper le cordon, il a dit non. Et j'étais là, non non, mais ça tu peux dire oui par contre. Il m'a dit, je voulais juste pas que t'ailles entre mes jambes au moment où il se passe des trucs. Parce que les infirmières et les sages-femmes et les gynécos, je trouve que c'est génial parce qu'ils sont vraiment en général passionnés par leur boulot la plupart du temps. Et donc elles étaient en mode genre pour vous encourager si vous voulez, on peut mettre le miroir et tout. Et moi j'étais sur cette table en train de me dire mais qu'est-ce qui va pas chez vous? Je suis en train déjà de ressentir un truc d'une violence inouïe et vous vous me dites est-ce que tu veux voir? Et j'étais là genre non, je veux pas le miroir, non, je ne veux pas toucher, dites-moi juste quand le bébé est là et c'est tout ce que je veux. Et mais voilà, il était aussi ému que moi, voilà, quand je l'ai regardé, il avait vraiment les larmes aux yeux et c'était voilà, c'est vraiment dingue parce que ça avait été très douloureux les minutes avant, les heures avant. La grossesse avait été inquiétante parce que j'avais peur de perdre mon bébé, etc. Et tout d'un coup, là, pendant ces quelques minutes juste après la naissance, eh ben, c'est juste un espèce d'énorme nuage de douceur, de bonheur, d'amour. Et j'entends, je sais même plus ce que la gynéco me disait ou ce que les sages-femmes me disaient. Il n'y avait plus que ce bébé qui comptait. On aurait pu me couper une jambe à ce moment-là. Je crois que c'était pas grave tellement j'avais ma dose d'amour là qui m'explosait littéralement dans la poitrine. Enfin, c'était dingue quoi. C'est vraiment un moment merveilleux et je comprends mieux quand les gens disent qu'on ne peut jamais oublier l'accouchement. C'est pas que parce que c'est violent. C'est aussi parce que ça peut être. C'est vraiment quand même aussi très joli à certains moments et cette première rencontre, c'est incroyable. Nous, elle est sortie, elle pleurait pas en plus. Elle avait juste ses yeux grands ouverts, elle nous regardait en mode hey, salut. Et c'était incroyable parce que j'étais là, mais elle pleure pas. Et on me fait non, mais elle respire, elle a l'air d'aller très bien. Et j'étais ok, on m'a toujours dit qu'un bébé devait pleurer en sortant, mais la mienne, elle nous a juste vraiment fixé. Voilà. C'est tout.
Et alors, est-ce que tu t'es sentie tout de suite à l'aise dans ton rôle de maman en rentrant à la maison?
Oh non, oh mon Dieu, quitter la maternité, qu'est-ce que j'ai pleuré. C'est marrant parce que c'était quatre jours ou cinq jours, mais c'est génial la maternité parce que t'appuies sur un bouton et t'as directement une professionnelle qui arrive, une sage-femme ou une infirmière qui vient et tu te dis, ah, j'ai un peu du mal à la mettre au sein, ou bien, ah, je sais pas si c'est normal, elle a fait ce bruit, et la nana vient et elle t'explique, elle te rassure. Et donc, quand on nous dit, c'est bon, vous pouvez rentrer chez vous, moi, j'étais un peu en mode, mais je n'aurai plus mon bouton magique où quand j'appuie, il y a quelqu'un qui débarque pour me dire, c'est normal, ou bien, vous devriez ceci, ou vous devriez cela. Et pour un premier, franchement, oui, moi, la clinique où j'étais, les nanas étaient vraiment très, très chouettes. Et donc, quand on est rentré, j'avoue que c'était un peu, ouais, un petit coup de mou, en fait, parce que tout d'un coup, je me suis dit, mais on me laisse ce bébé comme si je savais. Genre, on va me laisser rentrer avec cet enfant, en fait. Et c'était là, mais oui, à partir de 15, ça va aller. Mais c'est vrai qu'on était, je me souviens qu'on chuchotait avec mon mari, donc on a chuchoté dans la voiture, on a chuchoté dans l'ascenseur, on a chuchoté dans l'appartement, puis à un moment, il m'a dit, mais en fait, on va continuer à parler comme ça, tout doucement. Et puis j'ai dit, non, t'as raison, je sais pas pourquoi est-ce qu'on fait ça, mais tout d'un coup, c'était comme si le monde extérieur, tout était trop bruyant et que nous, il fallait qu'on chuchote pour qu'Adèle soit au calme et le mieux possible. Donc, ça a été un retour. À la fin, on était content de rentrer chez nous parce qu'on allait aussi pouvoir recevoir un peu plus la famille, les amis, puis rentrer dans notre routine. Et à la fois, je trouvais ça terriblement stressant qu'on laisse partir des parents avec leur bébé comme ça. Genre, mais vous êtes sûrs? Et donc voilà. Et ça a été beaucoup de voilà. Puis il y a la chute d'hormones. Moi, je l'ai allaité, donc voilà, l'allaitement, pareil, le premier allaitement, moi, j'y connaissais rien. Et on nous dit que c'est naturel. Alors certes, c'est naturel. Ça ne veut pas dire que c'est simple. Je pense que c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez. Oui, l'allaitement est naturel, mais les montées de lait, les pics de croissance, ne pas savoir si l'enfant a assez ou pas parce qu'il y a rien à faire. On sait qu'il doit bien avoir une quantité nécessaire, même si on nous le dit pas et on se demande si on la donne bien. Ma grande chance a été d'avoir une sage-femme qui est venue pendant les 5 premières semaines, une fois par semaine à la maison. Donc c'est quelque chose que les mutuelles en Belgique remboursent et dont on ne parle pas beaucoup, mais en fait, une sage-femme peut venir à la maison et la consultation est complètement remboursée. Elle vient 1h, 1h30, voir le bébé, voir la maman, faire les soins si nécessaire pour les mamans aussi qui ont eu des césariennes ou une épisio ou des choses comme ça. Et cette nana qui venait, d'abord, c'était ma nouvelle meilleure amie. Quand elle arrivait, plus rien ne comptait, quoi. Je l'embarquais dans ma chambre, je lui posais toutes mes questions. On parlait du bébé, on parlait de mes seins, on parlait de, voilà, c'était vraiment. Je pense que je n'ai jamais été aussi proche avec une autre femme qu'avec elle. Et elle, heureusement, c'était chouette parce que voilà, je gardais mes questions et puis quand elle arrivait, je la bombardais. Genre, j'ai l'impression qu'elle a pas assez. J'ai l'impression que il y a des choses que je fais pas bien. Et elle passait son temps à me rassurer, à me dire mais non, tu gères comme une chef. Regarde ce petit bout. Regarde comment elle grossit. Regarde comment elle fait pipi. Ça veut dire qu'elle a fait. Et elle a vraiment été incroyable. Et ça m'a beaucoup aidée. Parce que c'est vrai que sinon on est assez seul en fait, hein, même si on a la famille. Mon autre chance c'est ma mère, donc c'est ma mère qui est rwandaise et africaine, et du coup je me souviens que quand j'étais enceinte, elle m'avait dit qu'elle allait prendre tout le mois d'août, donc elle savait que j'accouchais fin juillet début août, et elle m'avait dit oui j'ai pris congé pour un mois en août pour t'aider. Et je me souviens que je me suis dit mais de quoi elle parle, pourquoi est-ce qu'elle veut m'aider, enfin je comprenais pas pourquoi est-ce qu'elle voulait prendre congé à la naissance de ma fille. Et en fait après j'ai compris parce qu'elle venait tous les jours à la maison avec des Tupperware avec de la nourriture chaude dedans, pour pas qu'on doive cuisiner, on n'avait plus qu'à s'installer à table à manger. Elle berçait ma fille, j'avais le temps d'aller prendre une douche ou simplement d'aller dormir, parce que des fois j'ai même pas envie de prendre une douche, je voulais juste dormir parce que la nuit avait été très longue. Et en fait j'étais là genre ah bah oui en fait c'est bien que t'aies pris congé un mois, parce que c'était mon petit ange gardien quoi. Elle venait elle me donnait un peu de temps, parce qu'en fait oui c'est ça, un bébé ça prend énormément de temps. Il y a tous ces conseils qui disent hein, dors quand le bébé dort, tout ça on essaye hein, mais c'est pas dit que ça marche à tous les coups, parce qu'on a aussi notre vie de femme, on a envie de s'occuper un peu de notre maison, de s'occuper un peu de nous, de peut-être lire un bouquin. Alors du coup le bébé fait la sieste, on dit bah, je vais en profiter pour faire quelque chose, puis le bébé se réveille et on se dit mais j'ai pas eu de temps pour moi et je suis fatiguée. Et donc avoir ma mère et cette sage-femme, ça a vraiment été une super aide en fait, parce que j'avais deux personnes qui venaient à un moment donné pour s'occuper de moi au final, parce qu'en fait c'est vrai qu'on tout le monde s'occupe du bébé, quand des amis passent, quand des invités viennent, tout le monde va être autour du bébé, mais je pense qu'on n'accorde pas assez de place à la maman et à savoir comment elle va en fait, de quoi elle a besoin, parce que généralement elle a pas forcément besoin d'une conversation, mais plus qu'on lui dise tu sais quoi, pendant qu'on est là va faire ta sieste, c'est cool.
Et ta maman, elle venait du Rwanda, là, ou elle habitait en Belgique aussi?
Non, on habitait en Belgique, mais c'est juste, pour elle, c'est tout naturel, parce que c'est une coutume, en fait. Et du coup, je l'ai découvert avec ma deuxième fille, puisque j'étais ici. Mais c'est vrai que, culturellement, en Afrique, on ne laisse pas la maman seule après l'accouchement. Il y a d'office soit la grand-mère, donc la mère de la maman, ou une tante ou une cousine ou une nièce, mais il y a quelqu'un qui vient, et normalement même, parce qu'on était en Europe donc elle l'a pas proposé, mais normalement la personne reste habitée en fait chez la jeune mère et va faire toutes les tâches en fait pour lesquelles c'est pas nécessaire que la maman se fatigue. Par exemple donner le bain au bébé, moi j'ai plein d'amis ici qui me disaient au Rwanda mais en fait tu sais moi le premier mois on me laissait même pas donner le bain à mon bébé, on me disait mais va te reposer, c'est un truc genre donner le bain au bébé, je vais le faire, je vais m'occuper de ton bébé, lui mettre sa petite crème, l'habiller, le cajoler, puis je te l'amène, toi pendant ce temps, t'as une heure pour te reposer, ou bien toi prendre ta douche en fait, mais de façon vraiment calme. Et donc ma mère a essayé de recréer un peu ce truc-là en fait, comme elle pouvait, en respectant le fait que je suis de deux cultures et que donc elle aurait pas pu habiter chez moi non plus, hein, j'aurais pas, je pense, accepté. Mais par contre, voilà, apporter à manger, limite prendre la lessive avec aussi, prendre le bébé et me dire allez va faire ce que t'as à faire, que ce soit une douche, que ce soit une promenade, que ce soit aller lire un magazine, je ne sais pas, mais pendant que je suis là et tant qu'elle ne pleure pas et qu'elle n'a pas besoin de toi, sous-entendu que tu la nourrisses, eh ben je peux faire le reste quoi, je peux la changer, je peux l'habiller, je peux la laver, et du coup c'est une aide. C'est une aide importante et j'ai parfois vu des amis et je me disais tiens c'est peut-être ça qui leur manque. Alors moi du coup je proposais à mes copines après quand elles devenaient maman, genre je vais venir chez toi et je sais pas pour te voir, c'est pour que tu te reposes, donc donne-moi le bébé et puis toi fais ce que t'as à faire. Et c'était le cadeau que j'aimais bien faire à mes copines, genre je viens pendant les 2-3 premières semaines, 2 heures, une fois par semaine, et tu fais ce que tu veux pendant ce temps-là parce que j'ai été à ta place et c'est ça qui m'a le plus aidée en fait. C'était pas de papoter, c'était qu'on me dise voilà du temps pour toi.
Et alors, toi, donc aujourd'hui, comme tu le disais, tu vis au Rwanda. Comment est né ce projet d'expatriation avec ta famille ?
Il est né avec la grossesse, en fait, d'Adèle. C'est-à-dire que donc moi, mon père est belge, ma mère est belge, mais d'origine rwandaise. Mon père travaillait comme expatrié en Afrique, c'est comme ça qu'il a rencontré ma mère. Je suis née sur le continent africain, j'ai grandi en Afrique de l'Ouest. Et je suis rentrée en Belgique quand j'avais 12 ans. Pour moi, la Belgique, avant ça, c'était uniquement les vacances et la famille, mais pas là où on vivait, puisqu'on vivait ailleurs. Et je me souviens quand on est rentré, j'avais 11 ans et que j'avais dit qu'un jour je repartirais, mais je savais pas quand ni comment. Et puis après, ben j'ai suivi un cursus normal, école, université, j'ai trouvé un boulot directement. Et donc, tant que le cursus avance, normalement, on se pose pas trop de questions. Mais alors, tout d'un coup, la maternité, ça a vraiment réveillé plusieurs choses en moi. D'un point de vue identité aussi, parce que je me disais, tiens, on va élever, mon mari est métisse aussi, mais lui, il a toujours vécu en Belgique. On va élever notre fille métisse en Belgique à 100%. Comment est-ce qu'elle pourra connaître son autre culture, en fait, puisque nous-mêmes, on est déjà un mélange de cultures, mais du coup, elle, la deuxième génération, ça va être un peu compliqué. Et je me suis rappelé de la douceur de mon enfance aussi, beaucoup dehors, à découvrir plein de trucs. Enfin, j'idéalisais peut-être un peu mon enfance, mais n'empêche, je me disais, j'aimerais bien que mon enfant connaisse ça aussi. Et en plus, au niveau du boulot, quand je suis tombée enceinte, je me suis rendu compte qu'en fait, dans les grosses entreprises, engager des femmes, oui, mais quand elles deviennent mères, ils deviennent un peu plus. Je peux pas dire agressif parce que c'était pas des trucs ouvertement agressifs, mais on te challenge en permanence pour que tu prouves que ton boulot a autant d'importance que ta vie de famille. Sauf qu'en fait, pour beaucoup de femmes, bah, c'est pas forcément le cas. Ça peut le redevenir quelques années après, mais au tout début de la maternité, on a envie d'être avec notre enfant, on a envie de travailler aussi parce qu'on a aussi envie d'avoir du temps à soi, mais on n'a pas envie d'être pressé ou de se sentir un peu à devoir se justifier sur notre rapport au travail, à la maternité, genre où est-ce que je mets le plus d'intérêt. Et donc pendant la grossesse, j'ai dit à mon mari, mais tu sais, moi j'aimerais vraiment bien qu'on parte en fait. J'ai aussi envie que ma fille grandisse un peu comme j'ai grandi, connaître d'autres choses, d'autres endroits, d'autres lieux, que sa norme soit autre chose que ce qu'elle pourra toujours retrouver à Bruxelles en fait. Et je trouve qu'au début mon mari était un peu genre oui on verra, mais moi vraiment l'idée était de plus en plus là, et comme j'ai été en arrêt maladie pendant ma grossesse, ben j'en ai profité pour me renseigner aussi auprès de potes qui étaient déjà revenus au Rwanda, poser des questions, tiens le coût de la vie, les écoles, etc. Et très vite le Rwanda nous a semblé une évidence parce que c'est le pays d'origine de ma mère, même si on n'y avait ni elle ni moi jamais vécu. Parce que c'était un pays qui avait une excellente réputation aussi d'un point de vue sécurité, santé, infrastructure. Je veux dire, c'est une Afrique beaucoup plus moderne que celle qu'on peut s'imaginer. Tous les gens qui vivent avec leurs enfants sont ravis. Et donc voilà, j'ai commencé à titiller mon mari avec ça. Et du coup, quand Adèle est née, ben j'ai continué à y penser pendant mon congé de maternité. Et à la reprise du travail, clairement, je me souviens des horaires de dingue que j'avais. Et en fait, je devais déposer la petite à la crèche à 7h pour être à 8h au boulot. Donc, je devais la réveiller le matin pour l'amener à la crèche. On était en plein hiver. Et puis, je la récupérais à 17h, 18h. Il faisait noir. Elle était crevée par la crèche. Donc, on avait genre une heure de temps ensemble. On lui donnait le bain. Elle mangeait. Puis, elle allait dormir. Et j'ai dit à mon mari, non, mais en fait, je peux pas élever mon enfant comme ça. Ça va être comme ça de plus en plus. Elle devra prendre les transports en commun ou assez jeune pour aller à l'école. Je sais pas, tout d'un coup, ça m'a, cette vie métro boulot dodo, à Bruxelles me semblait pas du tout adaptée avec un enfant. Et c'est pas le cas parce qu'il y a plein de gens qui le vivent et il y a aucun souci. On s'adapte, on peut adapter ses horaires. Mais moi, à ce moment-là, tout ce que je voyais, c'était genre, je peux pas avoir cette vie où, je cours après le temps pour voir mon enfant. Non, ça va pas être possible. Et je me disais, voilà, en partant, j'aurai une vie plus cool, plus relaxe. Donc, il faut qu'on prépare ce projet. Et donc, on est tombé d'accord avec mon mari de venir voir, en fait. Donc, Adèle est née en 2012 et on est venu en janvier 2014 pendant 3 semaines et demie pour voir. Moi, à ce moment-là, j'avais pas d'idée de ce qu'on allait faire. Moi, j'aurais pu, j'ai fait Sciences Po, donc je pouvais postuler pour une ambassade, je pouvais postuler pour l'administration, je pouvais postuler pour une ONG. Mais mon mari, lui, me disait, écoute, si on part, autant qu'on fasse quelque chose bien à nous, plutôt que de rentrer de nouveau dans un système où c'est avec un boulot et des horaires et où, du coup, on n'est toujours pas patron de notre temps, en fait. Et donc, voilà, en rigolant, on s'est dit, bah tiens, c'est vrai que les restaurants, à ce moment-là, en 2014, c'était pas folichon à Kigali. On s'est dit, bah tiens, pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'on ferait pas un resto? Mais ça, c'est vraiment, c'était une idée un peu pour rire, mais quand on en parlait, on nous disait, ah bah oui, bonne idée, ça manque à Kigali. Et du coup, bah, cette idée qui était à la base un peu plus une petite boutade est devenue quelque chose d'un peu plus sérieux. Et quand on est rentré à Bruxelles, on s'est vraiment dit, ok, maintenant on bosse sur ça. On va voir ce qu'on peut faire. Hein. Faut qu'on se renseigne, qu'on voit, qu'on trouve quelqu'un pour nous aider. Et on a commencé à en parler à des amis. On nous a présenté des gens. On a trouvé un monsieur qui est devenu notre mentor, qui nous a aidé à réaliser un business plan, qui nous a expliqué que la restauration était vraiment un secteur où, en effet, on pouvait créer. Pas mal de choses, c'est créateur d'emplois, donc c'est bien aussi quand tu reviens sur le continent africain de créer une entreprise qui va créer de l'emploi pour des jeunes. Enfin voilà, c'était tout semblait être bien sur le papier, se mettre en place. Et quand on avait passé les 3 semaines ici, Adèle avait été, mais elle avait 18 mois à ce moment-là. Elle avait été, mais genre c'était génial quoi, de la voir courir dans les jardins, de la voir courir au bord du lac Kivu. Les serveurs ici dans les restaurants, en fait, quand tu viens avec un enfant, mais ils se mettent à le babysitter en fait. C'est-à-dire que moi des fois je courais après, genre non, on ne va pas là, non, on ne fait pas ça. Et t'as toujours un serveur pour me dire mais ça va madame, en fait je vais aller avec votre enfant, asseyez-vous, genre détendez-vous, je me l'ai un peu stressée madame, détendez-vous, moi je vais aller courir avec votre enfant, genre c'est normal qu'un enfant court, mais voilà, quand tu vis dans une grande ville comme Bruxelles, on veut pas que ton enfant court dans le restaurant. on va plutôt te regarder avec dès que tu rentres dans un restaurant avec un enfant, les gens te regardent toujours genre oh mon dieu, faites qu'il vienne pas à côté de nous. Et là tout d'un coup je suis dans un autre monde où partout, à l'aéroport, au magasin, dans un hôtel, dans un restaurant, tout le monde trouve normal qu'un enfant fasse du bruit, court partout, et c'est toi qu'on va à la limite juger si t'es un peu trop sévère avec ton enfant. Et donc, vraiment, à ce moment-là, je me suis dit, ok, j'avais pas tant idéalisé que ça, c'est quand même vrai qu'il y a juste un rythme qui n'est pas le même et un rapport à l'enfance qui n'est pas le même. Et non, elle s'était acclimatée super vite, parce que des fois, on la laissait avec la dame qui travaillait chez mon oncle, c'était une dame qui avait elle-même des enfants, elle prenait Adèle, elle la mettait au dos dans un espèce de mouvement en 2 secondes là, et Adèle était mais genre complètement heureuse d'être portée comme ça par cette dame qu'elle connaissait à peine, et j'étais là genre il se passe quand même un truc quoi. Genre dans la façon de gérer les enfants, il y a un truc qu'on a perdu en Europe et qu'il y a encore ici. Ouais, ça nous a confirmé notre envie, donc on a préparé notre projet, et 9 mois plus tard, plus ou moins le temps d'une deuxième grossesse, hein, on arrivait à Kigali en fait. C'était vraiment comme si, enfin, tout a été très vite et c'était genre l'évidence. Une fois qu'on s'est lancé, les étapes se succédaient. À mon plus grand étonnement la plupart du temps, mais elle se succédait, et puis du coup on enchaînait l'étape suivante, et tout d'un coup on a dit voilà, on part le 3 décembre, on part avec nos affaires, on va ouvrir un restaurant, et voilà, on part. Et on a débarqué comme ça à Kigali le 3 décembre 2014, donc Adèle avait à ce moment-là donc 2 ans et 3 mois, ou quelque chose comme ça, c'était encore un tout petit bout quoi.
Et comment est venue cette deuxième grossesse? Le sujet a été abordé ou c'était une surprise?
Alors, comme pour la première, ça avait été un peu compliqué. On s'est dit qu'on allait... Donc, en fait, on est arrivé en décembre 2014. Puis, on a ouvert le restaurant. Ça prend quand même beaucoup de temps. C'était quand même un rythme qui était, en effet, un peu plus chouette dans le sens où on avait beaucoup de temps avec notre fille. Mais le temps qu'on consacrait au travail était aussi extrêmement intense. Et puis, bon, moi, en fait, donc mon père, mon père avait déjà eu un cancer, donc je savais que son état de santé n'était pas terrible. À ce moment-là, il était en rémission, mais voilà, on savait pas trop. Voilà, il y avait encore des examens à faire. Et donc, bref, on ouvre le restaurant en mars 2015. Et moi, je me dis, tiens, cet été, Adèle aura 3 ans. Il va falloir qu'on commence à y penser si on veut un deuxième. une certaine différence d'âge ne me pose aucun problème, mais bon, à un moment donné, il faut quand même se lancer, parce que sinon, plus le temps passe, plus aussi la motivation, je pense, s'éteint. Et donc, je dis à mon mari, ben, comme la première fois, ça a été compliqué, en fait, je peux déjà arrêter la pilule maintenant, donc là, on est vers mai 2015, et puis on verra bien, quoi. Et dans ma tête, c'est vraiment, de toute façon, si dans 6 mois, ça fonctionne pas, il faudra que je retourne faire ces examens et que je vois... si je dois pas reprendre de nouveau un truc pour stimuler, ou si mes règles vont être régulières, etc. Et en fait, j'arrête la pilule et mes règles sont nettement plus régulières que la première fois. Mais vraiment, on se prend pas la tête parce que on veut pas forcément que cette grossesse arrive tout de suite. Et puis en juillet-août, on part en Belgique parce qu'on avait un ami qui se mariait, parce qu'on voulait revoir la famille, etc. Et en fait, pendant ces vacances-là, je tombe enceinte. Enfin, je le sais pas tout de suite, mais on rentre à Kigali. Et c'est marrant la mémoire parce que j'avais vraiment les mêmes symptômes que pour Adèle, mais j'ai cru que je faisais une mononucléose en fait. parce que j'étais dans un état de fatigue. Donc on rentre début septembre, on rentre fin août à Kigali et je suis crevée. Alors au début je me dis bon, les vacances ont été vachement actives, on a été à gauche à droite voir la famille, on a beaucoup bougé, puis on revient, il y a le resto, c'est normal d'être crevée. Mais vraiment je peux m'endormir n'importe où, n'importe quand, et à un moment je me dis mais j'ai eu ça quand j'étais ado, c'était une mononucléose et tout, j'ai dû attraper une mononucléose quelque part, je ne sais pas. Et à un moment donné je sais que je vais voir le médecin généraliste ici au Rwanda en disant écoutez moi il faudrait me faire une prise de sang parce que il y a un truc qui va pas quoi, je suis explosée. Et puis on papote avec cette dame, donc je lui explique qu'on est arrivé il y a quelques mois, qu'on a fait le restaurant, et à ce moment-là je venais aussi d'apprendre que mon père, malheureusement, son cancer était revenu. Enfin, il nous avait contacté tous les enfants pour dire voilà, j'ai fait les examens, ils sont pas très bons, je vais devoir refaire d'autres examens, mais a priori le cancer malheureusement est revenu. Et donc pendant que je parle avec la généraliste, en fait, je me mets à pleurer et elle me dit, à mon avis, vous êtes en burn-out en fait. On pense même pas à parler des règles, on pense même pas à parler de ça. Mais bref, et donc elle me dit, on va faire une prise de sang pour être sûr que de toute façon tout va bien, parce que ça vaut toujours la peine de faire une prise de sang. Mais elle dit, sinon, je pense que vous avez peut-être besoin de repos. C'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup de changements en moins d'un an. C'est normal. À un moment donné, on est crevé. C'est juste une façon pour le corps de se protéger. Et au moment où elle fait la prise de sang, elle me dit, elle me dit, ah, et vous prenez la pilule? Et je dis, ah ben non, je prends plus la pilule, mais voilà. Ça a été compliqué pour la première, mais je pense pas que je sois enceinte. Je me rappelais plus quand est-ce que étaient mes dernières règles, mais j'ai l'impression que c'était il y a vraiment pas longtemps. Et donc elle m'a dit, ben je le coche quand même, on verra bien. Et donc on fait la prise de sang et en fait je suis enceinte. Je suis ni en burn-out ni en mononucléose. Je suis juste enceinte de la deuxième. Et du coup voilà, ça a été particulier de nouveau parce que donc mon père m'annonce que lui sa santé va pas bien et moi je suis là et donc moi je tombe enceinte à ce moment-là alors que j'étais sûre qu'à un moment donné j'allais avoir besoin d'aide et que c'était pas possible que je retombe enceinte sans être stimulée. Et donc de nouveau c'est bon, alors déjà c'est une deuxième grossesse, donc quand il y a une deuxième grossesse on est très occupé aussi avec le premier enfant. Adèle à ce moment-là a 3 ans, donc elle a encore besoin beaucoup de nous, donc c'est vrai que c'est très différent. Première grossesse, deuxième grossesse, je trouve que c'est déjà très différent. Et moi, le contexte était vraiment compliqué, puisque à côté de ça, je me disais, ben mince, alors et mon père. Et les nouvelles pour mon père, elles sont pas très très bonnes. Donc voilà, moi j'avance dans ma grossesse, mais à côté, j'ai les nouvelles de mon père en Belgique, c'est compliqué. Donc je décide de faire plusieurs allers-retours en Belgique pour passer du temps avec lui. Aussi pour voilà, parce que ma mère était seule, ma soeur était expatriée aussi à Dubaï, donc c'est vrai que c'est aussi une façon de voir ma mère, la soulager un peu parce que c'est elle qui conduisait à gauche à droite, qui faisait tous les examens. Mais du coup c'est vrai que j'ai pas tellement de souvenirs de ma deuxième grossesse. Je savais que j'étais enceinte et la grossesse se passait bien, j'allais chez le médecin, mais c'est pas du tout comme la première où je me projetais dès le début sur choix du prénom, est-ce que tu penses que c'est un garçon ou une fille. Là, j'étais pas du tout dans ça, j'étais plus dans le fait, bon, ok, c'est cool, je suis enceinte, mais à côté, j'ai vraiment des problèmes beaucoup plus importants, en fait, à savoir la santé de mon papa. Et du coup, oui, ça a été une grossesse, j'étais tout aussi malade que pour Adèle, hein, donc vomir pendant les 2 premiers trimestres, du matin au soir, voilà, un suivi classique, on nous a annoncé que c'était une petite fille, j'étais très contente parce qu'on avait déjà une et que je trouvais ça très doux, une petite fille, donc je me suis dit, ah bah c'est cool. Mais c'est vrai qu'à part ça, j'ai pas vraiment beaucoup de souvenirs de cette deuxième grossesse parce qu'elle est très liée à une période de ma vie où j'étais occupée mentalement et moralement par quelque chose de plus important vis-à-vis de mon papa, quoi.
Et t'étais suivie au Rwanda, du coup, t'avais prévu d'accoucher au Rwanda à la base ?
À la base, oui. Si tout se passait bien, si je ne devais pas être en Belgique, j'aurais accouché ici. J'avais un super gynécologue, en fait, qui est égyptien. Et j'ai découvert un truc incroyable avec lui, c'est le consentement médical. C'est-à-dire que la première visite, le gars d'abord m'a demandé si je voulais bien être auscultée pour voir si le bébé allait bien. Donc j'étais là genre, on m'a jamais posé la question. On me disait, déshabillez-vous, on va regarder si le bébé va bien. Mais on m'avait jamais dit, est-ce que vous voulez qu'on regarde si le bébé va bien. Donc déjà, ça j'avais découvert. Je me suis naturellement déshabillée parce qu'en fait, en Belgique, généralement, le gynécologue, tu te retrouves en sous-vêtements sur la table d'examen, c'est normal. Et là, en fait, non seulement il y a le médecin, mais il y a une infirmière toujours avec lui qui remplit les dossiers et qui est dans la salle aussi. C'est-à-dire que tu n'es jamais seule avec le médecin, que ce soit un homme ou une femme. Hein. C'est pas lié au sexe, c'est juste qu'il y a toujours le médecin et une infirmière. Et quand elle me voit en train de commencer à tout à fait me déshabiller, elle me dit « Mais non, 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 vous allez juste retirer le bas, je vais mettre un champ opératoire sur vous, et voilà. » Et j'étais là genre « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» C'était vraiment très très intéressant parce que je sais pas ce qu'il a étudié, si c'est en Égypte, si c'est en Angleterre, s'il a un accent anglais très très fort ce monsieur, mais j'étais là genre « Qu'est-ce que c'est que cette médecine où on me demande tout le temps ce que je veux bien, ce que je ne veux pas, où on me demande pas de me mettre nu parce que oui, au Rwanda, on est vraiment tout le temps dans le consentement et médical. Et c'était un truc que je découvrais. Il me demandait si je voulais une écho. Il me demandait si, enfin voilà, c'était pas des choses qui sont faites d'office en fait. Il faut que la patiente soit vraiment encline à tout ça. Et mais sinon après le suivi est le même quoi. Donc échographie, prise de sang pour vérifier que tout est ok, vitamines. Prénatal à prendre et voilà. Ici, on doit juste faire un peu plus attention parce qu'il y a la malaria aussi, donc le paludisme. Et c'est vrai que quand t'es enceinte, forcément, ça te rajoute un stress parce que bon, c'est une maladie. Quand tu n'es pas enceinte, si tu es là, tu peux prendre des médicaments directement et ça se soigne très bien. Mais quand tu es enceinte, le premier trimestre, ces médicaments-là ne sont pas compatibles avec une grossesse, donc du coup, tu as très peur d'attraper le premier trimestre. Donc, je me souviens que je vivais vraiment beaucoup sous ma moustiquaire. Dès que je rentrais à la maison, on fermait les fenêtres et tout pour pas qu'il y ait de moustiques. J'ai vraiment fait attention. Après le premier trimestre, c'est moins grave, mais pour le premier, j'avais vraiment cette anxiété de la malaria. Mais voilà. Mais sinon, oui, le suivi est vraiment identique. Et la seule différence, je pense, au niveau des accouchements, c'est qu'ils sont nettement moins médicalisés. Je pense qu'on propose moins d'office la péridurale. On va plus justement te laisser faire le travail naturellement. Il y a beaucoup de sages-femmes quand même maintenant ici. Mais sinon, voilà, il y a des hôpitaux. J'ai une amie qui a eu une césarienne ici. Ça s'est passé exactement comme en Europe. Voilà, c'est plus l'Afrique des années 70. Ça a heureusement progressé, surtout dans les grandes villes. Après, à la campagne, c'est encore autre chose, mais dans les grandes villes, le suivi, les accouchements, ce serait identique. Et donc, en théorie, moi, normalement, j'aurais accouché ici. Mais voilà, quand je suis arrivée à 7 mois de grossesse, mon père a été hospitalisé, et puis là, ça a très vite dégénéré, malheureusement. Et donc, je suis rentrée fin février, et il est décédé le 2 mars. Et du coup, ma sœur repartait à Dubaï, mon autre frère vivait aussi à l'étranger, ma mère était dans un état pas possible. Et il y a tellement de trucs à faire pour un enterrement, les suites aussi administratives que j'ai dit à mon mari, écoute, je pense que c'est plus raisonnable que je reste ici. Parce que d'abord, si je repars, je m'inquiétais beaucoup pour ma mère et donc ça va être beaucoup de stress. Et aussi, oui, à ce moment-là, vu l'état dans lequel j'étais, j'avais besoin de rester un peu... je trouvais que j'avais pas été assez là pendant la maladie de mon père. Et donc, je me rattrapais un peu après. Désolée. Et donc, j'ai décidé de rester avec Adèle. Donc, Adèle, je lui ai trouvé une école près de chez ma mère. On habitait chez ma mère. Mon mari est rentré à Kigali. Et ça n'a pas été des mois faciles, mais c'était... du coup, voilà, c'est une grossesse pour laquelle j'ai beaucoup de culpabilité, en fait. Même si c'est pas de ma faute. Mais j'étais tellement obsédée par... la maladie de mon père, les difficultés familiales, que ce n'est pas une grossesse dont j'ai vraiment pris soin. Et c'est vrai que ça a été assez dur à accepter. Ça m'a mis du temps d'accepter que cette deuxième grossesse, quelque part, je ne l'ai pas vécue comme il faut, quoi.
Enfin, je sais pas comment dire, j'ai vraiment toujours un peu ce petit regret de... C'était ma dernière grossesse et j'ai l'impression d'avoir un peu manqué. Et en même temps, c'était pas, enfin, c'était un contexte, c'était compliqué, il fallait faire des choix, donc c'était comme ça.
Bon, alors du coup, t'as accouché en Belgique.
Oui.
Comment s'est passée cette deuxième rencontre avec ta deuxième fille? Enfin, ta première rencontre avec ta deuxième fille.
Alors, pareil, on a dû me déclencher. Là, cette fois, c'était à l'avance et pas en retard parce que je perdais du liquide amniotique, en fait. Et donc, maman, elle était prévue pour le 16 mai et j'ai accouché le 3. Du coup, en fait, la gynécologue m'a annoncé un peu rapidement qu'il valait peut-être mieux qu'on déclenche parce que le fait qu'il manquait du liquide amniotique, ça peut engendrer pas mal de problèmes pour le bébé par rapport au cordon, elle pouvait se le mettre autour du cou, problème pour mouvoir, etc. Et donc, elle m'a dit, il faut qu'on déclenche. Du coup, j'ai dit, mais mon mari est au Rwanda, donc il faut qu'il arrive d'abord. Et du coup, elle m'avait annoncé ça un vendredi, donc j'ai appelé mon mari, j'ai dit, il faut que lundi, tu prennes l'avion. Et que t'arrives mardi, en fait, idéalement. Et comme ça, ils peuvent me déclencher mercredi matin. Et puis, en fait, il n'y avait pas de vol le lundi. Donc, il y avait le vol le mardi. Mais on a quand même laissé le déclenchement le mercredi. Donc, moi, je suis rentrée à la clinique à 6h du matin pour le déclenchement. Et lui, il est arrivé à 6h du matin à Amsterdam. Et puis, il fallait qu'il prenne le TGV jusqu'à Bruxelles. Enfin, franchement, c'était un truc de fou. Donc, de nouveau, je me suis retrouvée dans cet hôpital. Mais tout ça était un peu vague parce que j'étais vraiment me passait un peu au-dessus, j'ai l'impression que je contrôlais vraiment rien, mais de nouveau ça s'est très bien passé comme accouchement, c'est-à-dire que voilà, pareil, travail un peu lent au début et puis tout d'un coup ça s'emballe et elle est arrivée à 16h30. Mon mari était crevé, il était presque endormi sur la canapé, il est passé une nuit blanche dans l'avion. Mais voilà, l'accouchement a été facile, il n'y a pas eu de complications, heureusement. Et puis, il y a cette deuxième petite pitoune qui est arrivée, donc Pénélope, qui ressemblait pas du tout à sa sœur. Donc c'était marrant, c'était vraiment tout à fait un autre bébé. Elle avait aussi beaucoup de cheveux, mais d'abord elle était plus petite parce qu'elle était née 3 semaines à l'avance, donc j'ai l'impression que c'était une toute petite grenouille, elle faisait 2,7 kg, j'étais là genre, j'avais eu Adèle à 3,5 kg, donc là j'ai l'impression que j'avais un tout petit bébé, alors qu'en fait c'est pas mal 2,7 kg, mais sur le moment, ma référence était plus grosse, donc ça me perturbait. Elle, par contre, elle a beaucoup plus crié que sa sœur, elle avait un petit cri très strident. Et de nouveau, il y a eu cette magie, c'est-à-dire qu'après tous ces mois compliqués, la rencontrer, c'était juste incroyable, quoi. C'est-à-dire que j'ai été, mais genre, j'ai eu l'impression que le soleil se rallumait à ce moment-là. c'était vraiment celle qu'on attendait pour un peu mettre de la joie. Je me souviens que ma mère est venue en salle d'accouchement. Bon, j'avais un peu expliqué aux sages-femmes tout ce qui s'était passé. Ma gynéco, j'avais rencontré 2 mois avant, donc pareil, j'ai débarqué en mode, j'ai besoin d'une gynécologue, normalement j'habite pas ici, mais mon père, nanana, et tout. Et donc tout le monde savait que j'avais eu des mois un peu difficiles. Et donc en fait, j'ai accouché fin d'après-midi, mais normalement on peut plus avoir de visite à cette heure-là. Et puis là, elles m'ont vu au téléphone avec ma mère, puis elles m'ont dit, ma mère habitait vraiment à côté de la clinique, et il y avait Adèle aussi qui était avec ma mère. Donc elles m'ont dit, non mais... allez, on va faire une exception, mais votre mère peut venir. Donc, ma mère a pris la voiture, elle a tracé avec ma fille et elles ont débarqué. En fait, j'étais encore en salle d'accouchement. On ne m'avait même pas encore mis dans ma chambre. Et du coup, on avait tous besoin que ce bébé arrive. C'était très chouette. Et Adèle a eu vraiment une chouette réaction, quoi. Elle s'est directement dirigée vers sa petite sœur et elle était là genre, oh, elle est toute petite, elle est toute mignonne. Et on n'arrêtait pas de lui dire, mais toi aussi, t'étais si petite. Et regarde. Et là, j'ai l'impression qu'elle était tellement grande, en plus. C'est-à-dire que, elle avait 3 ans et demi, presque 4 ans, et subitement là, en la voyant dans la salle d'accouchement à côté du bébé, j'étais là, mais oh, qu'est-ce qu'elle est grande, ma fille. Tout d'un coup, elle passait vraiment cette grande sœur, et j'ai l'impression qu'elle était genre gigantesque. Et donc voilà, et puis voilà, la deuxième, il y a quand même des choses qui sont un peu plus simples. Je trouve que par exemple pour l'allaitement, ça a été un peu plus facile, vu que j'avais l'expérience de la première, je me posais un peu moins de questions, je suis restée beaucoup moins longtemps à l'hôpital, je crois que j'ai fait deux nuits, et puis on est rentrés, on logeait chez une de nos nièces qui nous avait prêté son appartement pour qu'on puisse être ensemble avec les deux petites,
Et ce qui était un peu compliqué, c'est juste que mon mari pouvait rester que 2 semaines. Et du coup, après, on a demandé à Adèle, en fait, si elle voulait rester avec moi ou si elle voulait rentrer à Kiev avec mon papa, sachant que moi, j'allais venir un peu plus tard. Enfin, quand le bébé aurait 1 mois, parce que pour prendre des vols long courrier, il faut que le bébé ait 1 mois. Et elle a choisi de partir avec son père. Donc, du coup, voilà, après 15 jours, ils sont partis tous les deux. Je me suis retrouvée seule avec la deuxième. Et en fait, c'est à la fois j'étais un peu triste ou nette, et à la fois c'était pas plus mal parce que c'est peut-être le seul moment où j'aurais eu 15 jours seule avec la deuxième, parce que les deuxièmes, il y a tout le temps le premier en fait. On n'est jamais vraiment seule avec les deuxièmes, et donc pour finir ces 15 jours là, au début j'étais un peu triste, et puis après je me suis dit mais en fait c'est bien parce que ce sera la seule période où j'aurai 15 jours. Vraiment avec ma deuxième en fait, parce qu'après ça il y aura toujours ta sœur en tout cas pendant un long moment, et donc voilà, mais ouais non, c'était chouette, elle a vraiment ramené le soleil en arrivant celle-là, c'était merveilleux.
Est-ce que ces 15 jours justement c'était pas aussi était pas aussi là pour que justement vous connectiez bien toutes les deux après cette grossesse un peu
tout à tumultueuse. Fait et de toute façon même les mois qui ont suivi, c'est-à-dire que j'ai cet enfant, voilà, je lui ai expliqué hein, que ça avait été compliqué, je lui ai beaucoup parlé, et j'ai été j'étais déjà comme ça avec Adèle, mais moi je suis une maman qui aime porter mes enfants contre moi, donc écharpe, truc comme ça, cododo, pas dans le lit, mais le berceau est dans ma chambre, surtout au début quand j'allaite, parce que je trouve ça beaucoup plus simple que de me lever. Donc voilà, je l'ai surcouvé, j'ai essayé de quelque part me sentir un peu moins mal, de ne pas avoir une grossesse tournée vers le bébé mais tournée vers l'extérieur, et du coup d'être une mère très très présente. Après du coup ça rend aussi nos relations compliquées, parce que c'est une petite fille qui du coup bon, c'est toujours compliqué parce que quand on parle, que ce soit avec un psy ou un pédiatre, on a des avis un peu différents, mais j'ai trouvé et je trouve encore que c'est une petite fille qui est très en demande d'être rassurée. Alors est-ce que c'est la grossesse ou est-ce que c'est justement d'avoir voulu compenser la grossesse, je ne le saurais jamais. Voilà, après j'ai aucun regret, ça me dérange pas qu'elle soit très en demande d'affection et d'amour, parce que maintenant que j'en ai deux, je sais que quand ils grandissent, de toute façon, à un moment donné, c'est eux qui n'ont plus besoin de tous ces câlins. J'ai une grande qui me dit les bisous, ça suffit. Et du coup, c'est bien qu'il y ait encore la petite de 4 ans qui me dise, moi, j'en veux plein des câlins. Mais c'est vrai que voilà, du coup, ça a été un bébé qui a fait ses nuits tardivement. Donc, Adèle, c'était le bébé de magazine. À 3 mois, elle faisait ses nuits et plus jamais elle s'est réveillée. Même quand elle était malade, elle pouvait être malade toute la journée, être gronchon, tout ce que tu veux. Quand la nuit arrivait, cet enfant dormait. Et là, on a eu un modèle insomniaque. C'est-à-dire qu'elle dormait, hein, mais de 2h du matin à 4h du matin, elle avait décidé que c'était le moment de faire sa vie. Alors au début, quand elle est petite, on croit que c'est parce qu'elle a faim, donc je l'allaitais. Et après, on se rend compte qu'elle a pas faim, elle veut juste gazouiller. Et puis, elle n'aimait pas dormir. Et encore maintenant à 4 ans, c'est une petite fille qui, quand il se passe des trucs un peu stressants ou si on change d'endroit, il peut lui falloir quelques jours pour s'habituer. Elle a un sommeil beaucoup plus délicat. Elle a plus besoin de d'être rassurée, etc. Mais du coup, c'est vrai que c'était vraiment pas le même modèle, parce que moi, à 3 mois, j'attendais à ce qu'elle passe ses nuits comme sa sœur, et en fait, pas du tout. Elle, c'était 22 mois, presque 2 ans, donc c'était long.
Et alors, ce retour au Rwanda à 4, mm-hmm. Hein, du coup, vous retrouvez tous les 4. Comment ça se passe? Comment ça s'organise la vie à Kigali?
Alors, il y a un truc qui est génial ici, c'est que on est aidé. Donc, j'avais déjà une nounou pour Adèle, puisqu'avec le restaurant, le soir, on n'est pas là. Et donc ici, c'est très courant d'avoir une nounou qui en fait vit chez toi, un peu comme une jeune fille au père, mais qui là est vraiment là que pour tes enfants.
Et donc, tu as retrouvé ce village, justement, dont tu parlais.
Ouais. En fait, je l'ai même plus découvert à ce moment-là, dans le sens où donc on est revenu, elle avait 1 mois tout pile. Donc, je suis arrivée. Bon, déjà, il y avait la nounou qui était surexcitée que je rentre avec le bébé, parce que, je dis, les gens ici, les bébés, ils les adorent. Donc, je crois même qu'elle a pris ma fille de mes bras avant que mon mari la prenne. Il était un peu là, genre, s'il te plaît. c'est ma fille d'abord, mais genre tellement elle était contente que je rentre avec le bébé. Et donc il y a déjà ça, donc il y a déjà cette nounou qui est à la maison, et donc ça c'est très chouette parce que elle me permettait parfois elle se mettait à bercer Pénélope et moi j'avais du temps avec Adèle. Donc je crois que ça a aussi permis que la relation entre les deux sœurs se passe bien parce que je n'étais pas débordée. J'étais aidée. Et là où j'ai découvert vraiment le village, c'est que tout d'un coup, en fait, il y a des amis de ma mère qui habitent au Rwanda ou des membres de sa famille que je connais pas forcément très bien, mais à qui ma mère a dit « Nathalie, viens de rentrer avec le bébé » et qui m'appelait en disant « Ok, on va passer à la maison et tout. » Et moi, je suis là « Oui, bah oui, si vous voulez, vous pouvez passer. » Et en fait, elles arrivent et puis elles te prennent le bébé des bras, elles le cajolent, elles l'embrassent, elles te demandent comment tu vas. Puis elles te font « Bon, ben, je suis là pour quelques heures, donc tu peux aller dans ta chambre te reposer. » Et toi, t'es là, genre, quoi ? Mais genre, vous êtes des invités, quoi. Genre, on se connaît, mais on se connaît un peu, pas beaucoup non plus, on n'est pas super proches. Et elles te disent, non, mais bon, il faut que tu te reposes quand même et tout. Et ne t'inquiète pas, si à la fin, on te l'amène, parce que là, on sait qu'à part toi, personne ne peut la nourrir. Mais tout le reste, on sait gérer quand on a eu des enfants aussi. Et alors, la première fois, t'es un peu gênée d'aller dans ta chambre et de laisser tes invités au salon avec tes enfants. Et puis, franchement, la deuxième fois, t'es là genre, ah, vous êtes là, cool. Allez, je vais dormir parce qu'elle fait pas ses nuits, cette petite. Et en fait, on s'habitue très vite à ce truc-là. Et c'est vraiment là que j'ai réalisé que oui, le rapport à la maternité, je pense, enfin, ça, c'est une analyse vraiment très personnelle, mais j'ai quand même toutes mes copines en Belgique ou en France, etc. On a toutes fait, à un moment donné, un petit burn-out, que ce soit la reprise du travail ou que ce soit pendant le congé de maternité. On a toutes eu des moments où on s'est posé des questions sur nos capacités en tant que mère, où on a été épuisé littéralement, et ce, même quand le mari donne un coup de main. Bon, alors, il y en a qui donnent pas en plus de coup de main, mais bref, on a toutes eu des moments super durs, et ici, malgré le contexte, donc je veux dire, je suis en deuil de mon père toujours qui est mort 3 mois avant. Je reviens au Rwanda avec un bébé tout petit, j'ai ma grande, etc. Je suis crevée, j'allaite, c'est moins difficile parce que je me pose moins de questions, mais c'est épuisant l'allaitement, il faut le dire. Elle ne dort pas la nuit, et malgré ça, j'ai pas eu de burn-out pour cet enfant-là, parce qu'en fait, à côté de moi, j'avais des gens sur qui compter, qui m'apportaient une aide concrète. C'est-à-dire que c'était pas pour me dire « Salut, comment ça va ?» et puis se barrer. C'était pour me dire « Je suis là pendant 2 ou 3 heures, qu'est-ce que tu veux faire ?» Y compris aller faire des courses au supermarché pour souffler, avoir un moment sans aucun de mes enfants. Y compris quand elle est un peu plus grande, pouvoir dire « Je vais me faire un rendez-vous massage, est-ce que tu peux venir jeudi ?» Et moi, pendant ce temps, je vais du coup aller me faire une manicure et un massage parce qu'en fait, ça me fera plaisir de retrouver un peu de féminité. Et du coup, ouais, on n'est pas du tout dans la même maternité parce qu'on a de l'aide et qu'on n'est pas gêné, on n'est pas gêné de l'accepter. Et la façon dont elle nous est offerte, en fait, n'est même pas négociable. Je pense pas que tu puisses dire non à une de tes tantines ou à une amie de ta mère en mode non, ça va. Elle va te regarder genre, mais en fait, je te demande pas ton avis. Je vais prendre ce bébé. Je vais lui apporter autre chose que ce que toi tu lui apportes. Des fois, j'arrive au salon, ma fille était sur le dos de la femme de mon oncle ou quoi, et en train de gazouiller, de se marrer. Et c'est juste incroyable parce qu'en fait, pourtant, je suis une mère poule. J'aime pas trop qu'on prenne mes enfants, mais avec ces femmes-là, la notion de maternité est partagée. En fait, je sais pas comment expliquer, mais genre, elles jouent pleinement un rôle de mère. Ou des fois, j'ai retrouvé ma fille, elle l'avait coiffée, elle lui avait fait des petites tresses et des trucs que moi, je prenais pas le temps de faire forcément parce que je suis crevée. Enfin, c'était très doux. C'était vraiment, j'ai trouvé cette maternité-là plus douce, malgré qu'elle soit dans un contexte compliqué, un bébé qui dort pas. J'ai trouvé ça beaucoup plus doux, en fait.
Des petites fées, quoi, qui débarquent.
Oui, et on t'amène à manger, on t'amène à boire, on te donne des conseils aussi. C'est-à-dire que comme ici, un des autres problèmes, je pense, qu'on a parfois en Europe par rapport à l'allaitement, c'est qu'il y a une grosse pression. Moi, des fois, je lis des trucs sur Internet et je me dis, mais attends, la nana, elle est seule, elle est débordée, elle n'arrive pas à allaiter, on la culpabilise. Ici, t'as pas ça. D'abord, t'as pas ça parce que, justement, on va tout faire pour que tu sois pas débordée et pour que tu sois pas crevée à ce point-là, que tu puisses, du coup, ne plus avoir de lait. Parce que si t'es fatiguée, il n'y a pas de lait. Faut arrêter ces histoires de tout le monde a du lait. Non, quand on est fatigué, il n'y en a pas. Et donc, ici, on s'arrange pour que ces situations-là n'arrivent pas, en fait. Que tu n'en arrives pas au point de te poser des questions sur est-ce que je peux nourrir mon enfant ou pas. Parce que tout autour de toi est fait pour que tu ne sois pas trop fatigué, que tu sois aidé, qu'on te donne des conseils. Genre, on m'a apporté certains aliments, des plats traditionnels rwandais, en me disant, ça, c'est quelque chose qui est bon pour la montée de lait. Ça, c'est quelque chose qui est bon, qui va rendre ton lait plus riche et du coup, le bébé va peut-être dormir un peu plus longtemps cette nuit. Donc, c'est quand toi, tu manges cet aliment-là, ton lait devrait être plus riche et ton enfant risque de faire une meilleure nuit. Bref, il y a toutes ces espèces de traditions comme ça, orales, en fait, parce que c'est, il n'y a pas de livre. Pour Adèle, j'avais plein de livres. J'avais tous les livres de Filosa, j'avais tous les livres sur l'allaitement et malgré ça, je pleurais en disant, ma mère, je crois que cet enfant n'a pas assez à manger. Et ma mère était là, mais de quoi elle parle? Pour la deuxième, je ne me suis jamais posé de questions par rapport à mon allaitement ou par rapport aux quantités. Ou est-ce que j'avais assez de lait ou quoi, parce que, un, d'abord c'est la deuxième qui te pose moins de questions, mais surtout, autour de moi, personne n'a jamais émis le moindre doute que cet enfant puisse avoir faim ou quoi, et même quand parfois elle pleurait et que je la mettais pas au sein, on me disait, pourquoi tu la mets pas au sein? Et je disais, non mais elle a mangé il y a une heure, faut pas exagérer, et puis elle me regardait genre, mais tu sais, un bébé ça allait mais parfois c'est juste pour boire ou pour le côté câlin de la tétée, ne prends pas la tête, mets-la au sein. Ici en fait, en public, elle était un enfant, c'est tout à fait normal. Tu es à la banque, il y a une maman qui est là avec son enfant, l'enfant pleure, elle le met au sein. Je pense aussi que culturellement, le sein n'a pas un attribut comme il y a en Europe par rapport à la féminité, en fait. En Europe, montrer son sein genre à un pote de ton mari, tu serais un peu genre, est-ce qu'il va pas croire que je l'allume ? Enfin, tu vois, on a un rapport au sein qui est quand même très sexualisé. Alors qu'ici, en fait, c'est pas du tout le cas. Donc, montrer ton sein, ben, on sait que le sein, c'est pour nourrir. Et donc, tu peux allaiter devant des hommes de ta famille, de la famille de ton mari, etc. C'est pas du tout vu comme un truc où des gens pourraient avoir une vision particulière de ça. Et donc, voilà, c'est vraiment tout un réseau. Quand on dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant, ben, ça prend tout son sens, en fait. Les amis que j'ai qui ont des bébés ici... bien sûr, tu peux quand même avoir un burn-out parce que tu peux avoir des bébés qui ont des problèmes de santé, parce que ou bien t'es des problèmes de couple qui font que voilà ta maternité est compliquée pour d'autres raisons. Mais il n'y a pas cette notion de burn-out, de fatigue comme j'ai pu le voir avec mes amis en Belgique ou avec moi-même avec ma première fille en fait, parce que vraiment on fait tout pour que tu ne sois pas au bout. On fait tout pour que tu sois aidé, pour que tu n'atteignes jamais ce degré de fatigue où tu te dis que plus rien ne va et où tu te poses des questions et où tu te mets à pleurer. On essaie d'arriver avant ça, quoi.
Et alors, la vie depuis ces quelques années, tu as ton resto, les filles vont à l'école.
Tout à fait. Enfin, bon, là, cette année avec le Covid, enfin, l'année passée, cette année avec le Covid, on a eu l'école à distance. Donc, ça, c'était très contraignant. Mais sinon, oui, on a une routine. Assez semblable à celle qu'on pourrait avoir en Europe, la différence étant que on est aidé vraiment. Tu peux déposer tes enfants chez une amie, même si elle a déjà trois enfants et que tu lui amènes les deux tiens, c'est tout à fait normal. Tu dois juste appeler le matin pour dire est-ce que ce soir je peux te laisser les enfants parce que là nous on doit faire un truc, j'ai besoin d'aide. Donc on a une espèce de réseau de mamans qui est que je trouve très très chouette et très très sain. On se partage nos enfants. Nos enfants sont autant élevés par nous que par nos copines. Et puis bon, le climat, évidemment, elles sont tout le temps dehors. C'est des petites filles qui sont tout le temps en extérieur. On voyage beaucoup aussi ici, enfin, beaucoup autour du Rwanda, Tanzanie, Kenya. Donc c'est des petites voyageuses intrépides. Vivre à l'étranger, ne pas avoir ses parents. Les oncles et tantes à disposition, ça t'oblige aussi de toute façon à te recréer un réseau, parce que je veux dire, même dans les mamans expats qui, comme moi, j'ai des racines ici, mais il y en a qui n'ont aucune racine, mais elles ont un peu cette même dynamique par rapport aux enfants, où nos enfants sont beaucoup, beaucoup ensemble les uns avec les autres. Et du coup, c'est des enfances très chouettes parce qu'ils sont tout le temps un peu à gauche, à droite à se débrouiller, en sachant qu'autour, il y a toujours quelqu'un. Une autre mère ou un autre père pour veiller. Et donc voilà, mais sinon c'est une vie normale, quoi. Elles vont à l'école, la grande fait du tennis, la petite a commencé, mais elle aime pas trop. Elles aiment les mêmes trucs que les autres enfants, hein, Reine des Neiges, qu'on écoute en boucle, tout ça. Mais, mais c'est vrai que voilà, c'est en fait parfois les gens, parce que sur le compte Insta, je partage un peu le quotidien, et c'est vrai que je vois bien que parfois les gens. Sont encore un peu étonnés de la ressemblance en fait entre la vie ici et la vie en Europe, mais voilà, c'est on est dans un monde qui est très mondialisé justement, donc oui, les enfants ici sont aussi fans de Spider-Man, Reine des Neiges et tout ça. On va au cinéma, on fait la même chose, c'est juste que tout est un peu, la vie des plus petites, parfois ça n'arrive pas en même temps qu'en Europe, mais il y a pas mal de choses différentes dans le sens où elles ont moins accès aux choix qu'on peut avoir en Europe. Genre quand je compare parfois avec mes neveux ou nièces qui connaissent déjà certaines marques, moi mes filles, les marques elles connaissent pas, elles connaissent les personnages de télé, les trucs pareils, mais on n'en est pas encore à ceci est à la mode, ceci n'est pas à la mode, donc ça elles en sont épargnées, mais ça va pas tarder, hein. Je vois bien les enfants plus grands à partir de 10-12 ans quand ils ont eux-mêmes un téléphone et internet, c'est foutu, mais sinon ouais, c'est une vie assez similaire, à part que je la trouve vraiment plus confortable et les voir grandir dans un milieu aussi multiculturel. Elles vont à l'école en anglais, elles ont appris le Kinyarwanda avec la nounou, justement, parce que ça, j'avais insisté. Moi, je n'ai jamais appris le Kinyarwanda parce que ma mère ne pensait pas d'abord qu'on retournerait au Rwanda un jour. Et puis, beaucoup de mamans de cette génération-là, les langues africaines, elles se disaient que ça servait pas à grand chose. Mais en fait, une langue, c'est pas pour qu'elle serve, c'est pour ce qu'elle apporte en termes de culture. Et avec moi, elle parle français. Donc, voilà, elles vivent dans un milieu qui est, très stimulant, très chouette. Après, des fois, il y a des trucs qui nous manquent, hein. Les visites au musée, les spectacles, les concerts. Ici, on en a forcément beaucoup moins, indépendamment du Covid ou pas. Donc, quand on vit à l'étranger, voilà, il y a des plus et il y a des moins. Ici, le plus, c'est vraiment le côté où tu n'es pas seule dans ta maternité, dans ta parentalité. Les moins, c'est évidemment que la famille manque quand même un petit peu. C'est elles ont ici d'autres adultes, mais elles voient pas forcément tout le temps les oncles et les tantes biologiques. Et voilà, donc c'est une vie que je suis vraiment contente d'avoir choisie, même si oui, parfois c'est il y a des trucs qui manquent, mais voilà, il y a pas d'endroit parfait, il y a pas de lieu parfait pour être parent, et donc fallait bien qu'il y ait des inconvénients vu qu'il y a des avantages aussi.
Et alors, comment tu leur transmets justement cette culture rwandaise?
Alors, bah déjà, en grandissant ici, quelque part, elles l'ont d'office. Donc déjà, la langue, je pense que la langue, en général, c'est quand même vraiment, pour toutes les cultures, qu'on soit vietnamien, qu'on soit brésilien ou quoi, quand on parle la langue, on a accès déjà à beaucoup de choses dans la culture, la chanson, la musique, les conversations. Ensuite, ici, forcément, l'école où elles sont, donc c'est une école internationale, mais qui a été fondée par des Rwandais. Du coup, il y a des cours de danse rwandaise, par exemple. Donc, la danse au Rwanda, c'est vraiment... Il y a une danse traditionnelle qui est absolument magnifique, très, très majestueuse, j'ai envie de dire. C'est avec des très beaux mouvements. Moi, je danse pas du tout. À chaque mariage, je suis toujours un peu « Oh non, mince, ils vont me demander de danser ce truc-là, je ne sais pas faire. » Mais donc, ça, elles l'ont. En fait, au-delà de la culture rwandaise, c'est aussi leur identité de métis, en fait. Être européen, être français ou belge, c'est pas quelque chose de compliqué. Les gens, en général, connaissent ton pays. Quand tu dis que tu es belge, les gens ont déjà des références par rapport à la Belgique. Quand tu dis que tu es français, pareil. Parfois cliché, hein, la baguette Paris, d'accord, mais dire on connaît. Par contre, quand tu es d'origine africaine, la part du temps, les gens véhiculent plutôt des clichés sur le continent africain. Pauvreté, guerre, maladie, voilà, violence, on va dire. Et du coup, le fait de grandir sur ce continent, de voyager sur ce continent, parce qu'on essaie vraiment, d'abord pour des raisons économiques, c'est moins cher de voyager à Zanzibar que d'aller à Tenerife. Donc voilà, c'est vite réglé. Et ça tombe bien, parce que c'est vraiment beau. Mais du coup, le fait de vivre sur le continent, ça leur permet d'avoir justement cette notion de l'Afrique telle qu'elle est plutôt que telle qu'elle est imaginée ailleurs. Et c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on insiste beaucoup, quoi. Vous êtes belge, mais vous êtes aussi rwandaise, vous êtes européenne et vous êtes africaine. C'est pas l'un ou l'autre, il n'y a pas de choix à faire. On vous demande pas de dire je suis plus ceci ou plus cela, mais il faut que vous soyez à 100% les deux. Et clairement, cette identité africaine sera plus vite remise en cause, plus vite discutée, peut plus vite poser problème que votre identité européenne, qui est une identité de pays dominant et donc qu'on ne remet pas beaucoup en question. Et donc voilà, moi je suis toujours très émue quand je les entends parler en Kinyarwanda, que ce soit avec ma mère ou avec la famille de mon mari. Donc eux, ils sont burundais, mais c'est des langues qui sont similaires, donc elles peuvent communiquer aussi avec la famille burundaise grâce au Kinyarwanda. Quand je les vois être contentes de s'habiller avec des tissus qu'on trouve ici, et trouver ça joli, quand on part en voyage et qu'elles me disent tiens, dans ce pays parle swahili, j'aimerais bien aussi apprendre le swahili, voilà, c'est vraiment chouette de voir que j'arrive à, voilà, je crois que mon envie principale, c'était qu'elles se sentent bien partout dans le monde, qu'elles n'aient ni honte d'où elles viennent, ni qu'elles se sentent non plus chauvines, hein, c'est pas la peine non plus de prendre l'autre extrême, mais juste qu'elles se sentent bien partout, qu'elles sachent que le monde est vaste, qu'il y a des gens différents, et que on vit pas tous de la même façon, mais que grosso modo, la plupart des gens ont les mêmes aspirations dans la vie, quoi, travailler, avoir une meilleure vie, avancer, être fiers de qui ils sont, et voilà, et je pense que le fait de grandir ailleurs, c'est ce que ça permet, parce que tu es confronté à la différence en permanence, quoi. Dans leurs écoles, il y a des enfants d'origine indienne, il y a des Américains, il y a des Français, il y a des Belges, il y a des Rwandais, il y a des Congolais, et donc c'est vrai qu'elles sont dans un brassage qui aurait été peut-être plus difficile à avoir à Bruxelles, même si Bruxelles est une ville multiculturelle, c'est pas forcément une ville où la culture, les cultures différentes sont mélangées, où il y a une vraie mixité. La mixité sociale reste très théorique, mais pas forcément pratique, alors qu'ici, elles sont dans une mixité sociale, culturelle, vraiment en permanence, en fait. Où qu'elles aillent, elles rencontrent des gens de partout, et ça leur semble tout à fait normal, et je trouve ça très chouette, en fait, que pour elles, la normalité, c'est que tout le monde puisse venir de n'importe où et pas penser qu'on est le centre du monde ou que sais-je, quoi.
Et alors, qu'est-ce que ça a changé chez toi, la maternité ?
Oh là là, tellement de choses. je crois que ça m'a rendue encore plus sensible que je ne l'étais, ce qui n'est pas forcément toujours facile. C'est-à-dire que pendant mes grossesses, donc moi j'ai tendance à vraiment être très vite touchée, que ce soit par d'autres personnes que je rencontre ou quand je lis l'actualité, je suis quelqu'un qui... voilà, je peux être triste pour un truc qui se passe à 7000 km de chez moi, mais vraiment triste. Et donc pendant mes grossesses, ça s'est grandement exacerbé, parce que quand on met un enfant au monde, on souhaite évidemment que sa vie soit, et ça c'est universel, que sa vie soit la plus douce, la plus sereine et la plus protégée, j'ai envie de dire, qu'il ne souffre jamais, bon, ce qui n'est pas possible, on va tous souffrir de quelque chose à un moment, mais... Et donc mon hypersensibilité, je pense qu'elle s'est exacerbée, ce qui fait de moi une maman très... ouais, qui doit me préparer au fait de ne pas trop les couver, mais plus de les préparer. Genre, la vie sera pas toujours facile, peut-être il y aura des moments compliqués, mais vous savez qu'à la maison, on sera toujours là, vous pouvez compter sur nous, leur donner des bases solides pour qu'elles sachent toujours vers où aller si les choses se compliquent. Ça a changé aussi ma patience. Bon, toujours pas la meuf la plus patiente du monde, mais je suis nettement plus patiente que je ne l'étais. Parce que les enfants, mon Dieu, voilà, des jeux où on répète 50 fois le même truc, j'avais pensé que je pouvais le supporter, mais en fait, ça va, on s'y fait. Le fait de ne pas dormir la nuit, c'est pas un truc évident, et pourtant, la plupart des mamans, on s'en sort bien, on prend sur nous, parfois trop, mais en tout cas, on fait de notre mieux. Et donc, oui, j'ai découvert qu'en fait, quand l'amour inconditionnel, je pense que c'est vraiment l'amour d'une mère pour ses enfants, enfin, probablement d'un père aussi, c'est un peu, on en discute moins des papas, donc je sais pas trop. Mais c'est vrai que la maternité, je pense que l'amour inconditionnel prend vraiment tout son sens avec la maternité. C'est-à-dire que voilà, on peut avoir des journées où on a l'impression que rien ne va, nos enfants nous disent des trucs pas très sympas parce que c'est des enfants et qu'ils ont leurs propres émotions et qu'on n'est plus leur maman et qu'on n'est pas gentil. Et nous, ça a été une journée compliquée. Et malgré ça, à aucun moment on va dire à notre enfant, mais je ne t'aime plus. Ils peuvent nous faire endurer plein de trucs, nous priver de sommeil, nous parler mal, nous trucs. Et ben voilà, en fait, malgré ça, il y a ce truc qui fait que on les aime toujours et c'est. Ouais, je pense que j'ai vraiment découvert l'amour inconditionnel avec avec mes filles et quand on dit je pourrais mourir pour quelqu'un quand on est ado et qu'on pense à son mec, c'est pas vrai. Mais par contre pour les enfants, c'est vrai. Genre voilà, pour eux on serait vraiment prêt à n'importe quoi et peu importe qu'ils nous le rendent ou pas, ouais, on est quand même on les aime c'est ce truc là, je trouve que c'est assez fascinant. Voilà, on peut être énervé, ils peuvent nous mettre là, vraiment, ils peuvent nous avoir ruiné une journée ou quoi, mais au moment de les coucher là, quand on leur fait un petit bisou et qu'il y a leur petite main qui s'accroche à nous, ben voilà, on oublie tout et ouais, l'amour inconditionnel.
On va passer aux petites questions de fin d'épisode.
Bien sûr.
C'est quoi pour toi être une maman rwandaise?
Bah, c'est être une maman comme les autres, en fait. Et s'il y a un truc que je réalise, c'est que la maternité, c'est quand même un phénomène universel. Je veux dire, on a toutes les mêmes rêves et les mêmes envies, que nos enfants soient en bonne santé, qu'ils aillent bien, de les protéger autant qu'on peut des aléas de la vie et qu'ils aient un avenir qui soit encore meilleur que le nôtre si possible, qu'ils aillent plus loin, qu'ils fassent mieux, qu'ils fassent plus. Être une maman rwandaise, c'est aussi être une maman accompagnée. C'est-à-dire que vraiment ici, je peux compter sur d'autres personnes pour m'aider, me dépanner, me soutenir. On ne va pas forcément partager exactement des visions similaires de l'éducation ou quoi, mais si j'ai besoin d'un coup de main, je sais que mes enfants seront entre de bonnes mains ici, parce que on est ensemble en fait. Les enfants sont les enfants un peu de tout le monde.
Quel est ton endroit kids friendly préféré?
Alors, mon endroit kid friendly préféré, en fait, c'est au bord du lac Kivu. Donc, c'est à 2h30, 3h de Kigali. C'est un des plus beaux coins du Rwanda. Et comme c'est au bord d'un lac, il y a plein de petites plages, de petites criques. Il y a des pêcheurs qui nous amènent sur leur bateau. Et ça, c'est un endroit où je crois aucun enfant ne peut résister. Les adultes non plus, d'ailleurs.
Et quels sont tes projets rien que pour toi et ceux prévus en famille?
Alors, rien que pour moi, j'ai appris récemment, avec ma deuxième grossesse, j'ai appris qu'il fallait que je me consacre plus de temps et qu'en fait, quand je me consacrais du temps juste à moi, j'étais une meilleure mère, une meilleure compagne, une meilleure partenaire dans le business aussi. Et donc, en fait, cette année a été un peu compliquée, enfin l'année passée, cette année avec le Covid, ça a été un peu compliqué, mais sinon, je me suis engagée envers moi-même à prendre des week-ends juste pour moi, en fait, où je pars seule. Donc, je laisse les filles à leur papa et moi, je pars pendant 48 heures. D'une part, ça me fait du bien. D'autre part, c'est aussi une façon d'expliquer à mes filles que dans la vie, elles ne seront pas que des épouses ou que des mamans ou que des femmes qui travaillent, mais qu'elles ont le droit de s'octroyer du temps pour elles. Donc ça, c'est à titre perso, de me consacrer ces moments et de ne pas culpabiliser, parce qu'il y a toujours ce petit moment où parfois j'ai mon mari, oui, non, mais là, c'est pas le moment. Et c'est lui qui me dit, écoute, tu auras toujours une raison pour ne pas partir, mais t'en as besoin, donc go. Donc ne pas me trouver d'excuses et prendre ces moments. Et alors, par rapport au projet pour toute la famille, nous, ce qu'on espère vraiment, c'est que les vaccins arrivent au plus vite et qu'on puisse revoyager, parce que je t'avoue qu'on est une famille qui apprécie énormément les voyages et c'est très superficiel, mais c'est vrai qu'on a pas mal d'autres pays qu'on a envie de voir ici sur le continent, le Malawi, le Mozambique, la Namibie, et tout ça est à l'arrêt parce que voyager en ce moment est compliqué et n'est pas forcément raisonnable, parce que même si tes pays vont mieux, tu risques toi d'amener des trucs, donc faut quand même être patient. Mais c'est vrai qu'on aimerait bien pouvoir repartir en famille et si possible faire un trip où on peut louer une voiture et en fait camper plutôt que l'hôtel, quoi. Ça, ce serait le projet familial de l'année.
Merci beaucoup, Nathalie.
Merci à toi de m'avoir écoutée.
Merci d'avoir écouté Le Tourbillon. Et si ce podcast vous plaît, vous pouvez le soutenir en mettant un avis et 5 étoiles sur votre application podcast. Cela m'aidera beaucoup. Pour échanger sur le sujet abordé avec Nathalie, laissez vos commentaires sous la photo de l'épisode 81 sur le compte Instagram Le Tourbillon Podcast. Et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode qui parle de la maternité, la vraie.